Qu'avez-vous ? Avait été le premier mot de Diane de Maufrigneuse à l'aspect de son cher Victurnien. Mais, ma chère Diane, je suis dans un si grand embarras qu'un homme au fond de l'eau et à sa dernière gorgée est heureux en comparaison de moi. Bah, fit-elle, des misères, vous êtes un enfant. Voyons, dites. Je suis perdue de dettes et arrivée au pied du mur. N'est-ce que cela ? Dit-elle en souriant. Toutes les affaires d'argent s'arrangent d'une manière ou de l'autre. Il n'y a d'irréparable que les désastres du cœur. Mis à l'aise par cette compréhension subite de sa position, Victurnien déroula la brillante tapisserie de sa vie pendant ses 30 mois, mais à l'envers, et avec talent d'ailleurs, avec esprit surtout. Il déploya dans son récit cette poésie du moment qui ne manque à personne dans les grandes crises, et sut le vernir d'un élégant mépris pour les choses et les hommes. Ce fut aristocratique. La duchesse écoutait comme elle savait écouter, le coude appuyé sur son genou levé très haut. Elle avait le pied sur un tabouret, ses doigts étaient mignonnement groupés autour de son joli menton. Elle tenait ses yeux attachés aux yeux du comte, mais des myriades de sentiments passaient sous leur bleu comme des lueurs d'orage entre deux nuées. Elle avait le front calme, la bouche sérieuse d'attention, sérieuse d'amour, les lèvres nouées aux lèvres de Victurnien. Être écoutée ainsi, voyez-vous, c'était à croire que l'amour divin émanait de ce cœur. Aussi, quand le comte eut proposé la fuite à cette âme attachée à son âme, fut-il obligé de s'écrier « Vous êtes un ange !» La belle Maufrigneuse répondait sans avoir encore parlé. « Bien, bien !» dit la duchesse, qui, au lieu d'être livrée à l'amour qu'elle exprimait, était livrée à de profondes combinaisons qu'elle gardait pour elle. « Il ne s'agit pas de cela, mon ami. L'ange n'était plus que cela. Pensons à vous, oui, nous partirons, le plus tôt sera le mieux. Arrangez tout, je vous suivrai. » C'est beau de laisser là Paris et le monde. Je vais faire mes préparatifs de manière que l'on ne puisse rien soupçonner. » Ce mot « je vous suivrai » fut dit comme l'eût dit à cette époque la Mars pour faire tressaillir 2000 spectateurs. Quand une duchesse de Maufrigneuse offre dans une pareille phrase un pareil sacrifice à l'amour, elle a payé sa dette. Est-il possible de lui parler de détails ignobles ? Victurnien put d'autant mieux cacher les moyens qu'il comptait employer que Diane se gardia bien de le questionner. Elle resta conviée, comme le disait de Marsay, au banquet couronné de roses que tout homme devait lui apprêter. Victurnien ne voulut pas s'en aller sans que cette promesse fût scellée. Il avait besoin de puiser du courage dans son bonheur pour se résoudre à une action qui serait, se disait-il, mal interprétée. Mais il compta, ce fut sa raison déterminante, sur sa tante et sur son père pour étouffer l'affaire. Il comptait même encore sur Chesnel pour inventer quelques transactions. D'ailleurs, cette affaire était le seul moyen de faire un emprunt sur les terres de la famille. Avec 300 000 francs, le comte et la duchesse iraient vivre heureux, cachés, dans un palais à Venise, ils y oublieraient l'univers. Ils se racontèrent leur roman par avance. Le lendemain, Victurnien fit un mandat de 300 000 francs et le porta chez les Keller. Les Keller payèrent, ils avaient en ce moment des fonds à Du Croisier. Mais ils le prévinrent par une lettre qu'il ne tira plus sur eux sans avis. Du Croisier, très étonné, demanda son compte, on le lui envoya. Ce compte lui expliqua tout, sa vengeance était échue. Quand Victurnien eut son argent, il le porta chez madame de Maufrigneuse, qui serra dans son secrétaire les billets de banque et voulut dire adieu au monde en voyant une dernière fois l'opéra. Victurnien était rêveur, distrait, inquiet. Il commençait à réfléchir. Il pensait que sa place dans la loge de la duchesse pouvait lui coûter cher, qu'il ferait mieux, après avoir mis les 300 000 francs en sûreté, de courir la poste et de tomber aux pieds de Chesnel en lui avouant son embarras. Avant de sortir, la duchesse ne put s'empêcher de jeter à Victurnien un adorable regard où éclatait le désir de faire encore quelques adieux à ce nid qu'elle aimait tant. Le trop jeune comte perdit une nuit. Le lendemain, à 3 heures, il était à l'hôtel de Maufrigneuse et venait prendre les ordres de la duchesse pour partir au milieu de la nuit. « Pourquoi partirions-nous » dit-elle. « J'ai bien pensé à ce projet. La vicomtesse de Beauséant et la duchesse de Langeais ont disparu. La fuite aurait quelque chose de bien vulgaire. Nous ferons tête à l'orage. Ce sera beaucoup plus beau. Je suis sûre du succès. » Victurnien eut un éblouissement. Il lui sembla que sa peau se dissolvait et que son sang coulait de tous côtés. « Qu'avez-vous ? » s'écria la belle Diane, en s'apercevant d'une hésitation que les femmes ne pardonnent jamais. À toutes les fantaisies des femmes, les gens habiles doivent d'abord dire oui, et leur suggérer les motifs du non, en leur laissant l'exercice de leur droit de changer à l'infini leurs idées, leurs résolutions et leurs sentiments. Pour la première fois, Victurnien eut un accès de colère, la colère des gens faibles et poétiques, orage mêlé de pluie, d'éclairs, mais sans tonnerre. Il traita fort mal cet ange sur la foi duquel il avait hasardé plus que sa vie, l'honneur de sa maison. « Voilà donc, dit-elle, ce que nous trouvons après 18 mois de tendresse. Vous me faites mal, bien mal. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. J'ai cru que vous m'aimiez, vous ne m'aimiez pas. »« Je ne vous aime pas ? » demanda-t-il, foudroyé par ce reproche. « Non, monsieur. »« Mais encore, s'écria-t-il. Ah, si vous saviez ce que je viens de faire pour vous !»« Et qu'avez-vous tant fait pour moi, monsieur ? » dit-elle, comme si l'on ne devait pas tout faire pour une femme qui a tant fait pour vous. « Vous n'êtes pas digne de le savoir, » s'écria Victurnien enragé. « Ah !» Après ce sublime « ah !», Diane pencha sa tête, la mit dans sa main, et demeura froide, immobile, implacable, comme doivent être les anges qui ne partagent aucun des sentiments humains. Quand Victurnien trouva cette femme dans cette pose terrible, il oublia son danger. Ne venait-il pas de maltraiter la créature la plus angélique du monde ? Il voulait sa grâce, il se mit aux pieds de Diane de Maufrigneuse et les baisa, il l'implora, il pleura. Le malheureux resta là 2 heures, faisant 1000 folies. Il rencontra toujours un visage froid et des yeux où roulaient des larmes par moments, de grosses larmes silencieuses, aussitôt essuyées, afin d'empêcher l'indigne amant de les recueillir. La duchesse jouait une de ces douleurs qui rendent les femmes augustes et sacrées. 2 autres heures succédèrent à ces 2 premières heures. Le comte obtint alors la main de Diane. Il la trouva froide et sans âme. Cette belle main, pleine de trésors, ressemblait à du bois souple. Elle n'exprimait rien. Il l'avait saisie, elle n'était pas donnée. Il ne vivait plus, il ne pensait plus. Il n'aurait pas vu le soleil. Que faire, que résoudre, quelle partie prendre? Dans ces sortes d'occasions, pour conserver son sang-froid, un homme doit être constitué comme ce forçat, qui, après avoir volé pendant toute la nuit les médailles d'or de la bibliothèque royale, vient au matin prier son honnête homme de frère de les fondre, s'entend dire « Que faut-il faire ?» et lui répond « Fais-moi du café. » Mais Victurnien tomba dans une stupeur hébétée, dont les ténèbres enveloppèrent son esprit. Sur ces brumes grises passaient, semblables à ces figures que Raphaël a mises sur des fonds noirs, les images des voluptés auxquelles il fallait dire adieu. Inexorable et méprisante, la duchesse jouait avec un bout d'écharpe en lançant des regards irrités sur Victurnien. Elle coquetait avec ses souvenirs mondains. Elle parlait à son amant de ses rivaux comme si cette colère la décidait à remplacer par l'un d'eux un homme capable de démentir en un moment 28 mois d'amour. « Ah, disait-elle, ce ne serait pas ce cher, charmant petit Félix de Vandenesse, si fidèle à Madame de Mortsauf, qui se permettrait une pareille scène. Il aime celui-là. » De Marsay, ce terrible De Marsay, que tout le monde trouve si tigre, est un de ces hommes forts qui rudoient les hommes, mais qui gardent toute leur délicatesse pour les femmes. Montriveau a bérisé sous son pied la duchesse de Langeais, comme Othello tue Desdémone, dans un accès de colère qui du moins attesta l'excès de son amour. Ce n'était pas mesquin comme une querelle. Il y a du plaisir à être brisé ainsi. Les hommes blonds, petits, minces et fluets, aiment à tourmenter les femmes. Ils ne peuvent régner que sur ces pauvres, faibles créatures. Ils aiment pour avoir une raison de se croire des hommes. La tyrannie de l'amour est leur seule chance de pouvoir. Elle ne savait pas pourquoi elle s'était mise sous la domination d'un homme blond. De Marsay, Montriveau, Vandenesse, ces beaux bruns, avaient un rayon de soleil dans les yeux. Ce fut un déluge d'épigrammes qui passèrent en sifflant comme des balles. Diane lançait 3 flèches dans un mot. Elle humiliait, elle piquait, elle blessait à elle seule, comme 10 sauvages savent blesser quand ils veulent faire souffrir leur ennemi lié à un poteau. Le comte lui cria dans un accès d'impatience « Vous êtes folle !» et sortit, Dieu sait en quel état. Il conduisit son cheval comme s'il n'eût jamais mené. Il accrocha des voitures, il donna contre une borne dans la place Louis XV, il alla sans savoir où. Son cheval, ne se sentant pas tenu, s'enfuit par le quai d'Orsay à son écurie. En tournant la rue de l'Université, le cabriolet fut arrêté par Joséphin. « Monsieur, dit le vieillard d'un air effaré, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. La justice est venue pour vous arrêter. » Victurnien mit le compte de cette arrestation sur le mandat qui ne pouvait pas encore être arrivé chez le procureur du roi, et non sur ces véritables lettres de change qui se remuaient depuis quelques jours sous forme de jugement en règle et que la main des gardes du commerce mettait en scène avec accompagnement d'espions, de rescor, de juge de paix, commissaire de police, gendarme et autres représentants de l'ordre social. Comme la plupart des criminels, Victurnien ne pensait plus qu'à son crime. « Je suis perdu !» s'écria-t-il. « Non, monsieur le comte, poussez en avant. Allez à l'hôtel du Bon La Fontaine, rue de Grenelle. Vous y trouverez mademoiselle Armande, qui est arrivée. Les chevaux sont mis à sa voiture, elle vous attend et vous emmènera. » Dans son trouble, Victurnien saisit cette branche offerte à portée de sa main, au sein de ce naufrage. Il courut à cet hôtel, y trouva, y embrassa sa tante qui pleurait comme une madeleine. On eût dit la complice des fautes de son neveu. Tous deux montèrent en voiture, et quelques instants après, ils se trouvèrent hors Paris, sur la route de Brest. Victurnien, anéanti, demeurait dans un profond silence. Quand la tante et le neveu se parlèrent, ils furent l'un et l'autre victimes du fatal quiproquo qui avait jeté sans réflexion Victurnien dans les bras de mademoiselle Armande. Le neveu pensait à son faux, la tante pensait aux dettes et aux lettres de change. « Vous savez tout, ma tante, lui dit-il. Oui, mon pauvre enfant, mais nous sommes là. Dans ce moment-ci, je ne te gronderai pas. Reprends courage. Il faudra me cacher. Peut-être, oui, cette idée est excellente. Si je pouvais entrer chez Chesnel sans être vue, en calculant notre arrivée au milieu de la nuit, ce sera mieux, nous serons plus libres de tout cacher à mon frère. Pauvre ange, comme il souffre, dit-elle en caressant cet indigne enfant. Oh, maintenant je comprends le déshonneur, il a refroidi mon amour. Malheureux enfant, tant de bonheur et tant de misère. Mademoiselle Armande tenait la tête brûlante de son neveu sur sa poitrine. Elle baisait ce front en sueur malgré le froid, comme les saintes femmes durent baiser le front du Christ en le mettant dans son suaire. Selon son excellent calcul, cet enfant prodigue fut nuitamment introduit dans la paisible maison de la rue du Bercail. Mais le hasard fit qu'en y venant, il se jetait, suivant une expression proverbiale, dans la gueule du loup. Chesnel avait la veille traité de son étude avec le premier clerc de monsieur le pressoir, le notaire des libéraux, comme il était le notaire de l'aristocratie. Ce jeune clerc appartenait à une famille assez riche pour pouvoir donner à Chesnel une somme importante en acompte, 100 000 francs. Avec 100 000 francs, se disait en ce moment le vieux notaire qui se frottait les mains, on éteint bien des créances. Le jeune homme a des dettes usuraires, nous le renfermerons ici. J'irai là-bas, moi, faire capituler ces chiens-là. Chesnel, l'honnête Chesnel, le vertueux Chesnel, le digne Chesnel, appelait des chiens les créanciers de son enfant d'amour, le comte Victurnien. Le futur notaire quittait la rue du Bercail lorsque la calèche de mademoiselle Armande y entrait. La curiosité naturelle à tout jeune homme qui eût vu, dans cette ville, à cette heure, une calèche s'arrêtant à la porte du vieux notaire, était suffisamment éveillée pour faire rester le premier clerc dans l'enfoncement d'une porte d'où il aperçut mademoiselle Armande. Mademoiselle Armande d'Esgrignon, à cette heure, que se passe-t-il donc chez les d'Esgrignon, se dit-il. À l'aspect de mademoiselle, Chesnel la reçut assez mystérieusement, en rentrant la lumière qu'il tenait à la main. En voyant Victurnien, au premier mot que lui dit à l'oreille mademoiselle Armande, le bonhomme comprit tout. Il regarda dans la rue, la trouva silencieuse et tranquille, il fit un signe, le jeune comte s'élança de la calèche dans la cour. Tout fut perdu, la retraite de Victurnien était connue du successeur de Chesnel. « Ah, monsieur le comte !» s'écria l'ex-notaire quand Victurnien fut installé dans une chambre qui donnait dans le cabinet de Chesnel et où l'on ne pouvait pénétrer qu'en passant sur le corps du bonhomme. « Oui, monsieur, répondit le jeune homme en comprenant l'exclamation de son vieil ami. Je ne vous ai pas écouté, je suis au fond d'un abîme où il faudra périr. « Non, non, dit le bonhomme en regardant triomphalement mademoiselle Armande et le comte, j'ai vendu mon étude, il y avait bien longtemps que je travaillais et que je pensais à me retirer. J'aurai demain à midi 100 000 francs, avec lesquels on peut arranger bien des choses. Mademoiselle, dit-il, vous êtes fatiguée, remontez en voiture et rentrez vous coucher. À demain les affaires. » « Il est en sûreté ? » répondit-elle en montrant Victurnien. « Oui, dit le vieillard. » Elle embrassa son neveu, lui laissa quelques larmes sur le front et partit. « Mon bon Chesnel, à quoi serviront vos 100 000 francs dans la situation où je me trouve ? » dit le comte à son vieil ami quand ils se mirent à causer d'affaires. « Vous ne connaissez pas, je le crois, l'étendue de mes malheurs. » Victurnien expliqua son affaire. Chesnel resta foudroyé. Sans la force de son dévouement, il aurait succombé sous ce coup. Deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux, qu'on aurait cru desséchés. Il redevint enfant pour quelques instants. Pendant quelques instants, il fut insensé comme un homme qui verrait brûler sa maison et, à travers une fenêtre, flamber le berceau de ses enfants et leurs cheveux siffler en se consumant. Il se dressa en pied, eût dit Amyo. Il sembla grandir. Il leva ses vieilles mains. Il les agita par des gestes désespérés et fous. « Que votre père meure sans jamais rien savoir, jeune homme. C'est assez d'être faussaire. Ne soyez point parricide. Fuir ? Non, il vous condamnerait par contumace. Malheureux enfant, pourquoi n'avez-vous pas contrefait ma signature à moi ? Moi, j'aurais payé, je n'aurais pas porté le titre chez le procureur du roi. Je ne puis plus rien, vous m'avez acculé dans le dernier trou de l'enfer. » Du Croisier, que devenir, que faire? Si vous aviez tué quelqu'un, cela s'excuse encore. Mais un faux, un faux! Et le temps qui s'envole, dit-il en montrant sa vieille pendule par un geste menaçant. Il faut un faux passeport maintenant, le crime attire le crime, il faut, dit-il en faisant une pause, il faut avant tout sauver la maison des Sgrignon. Mais, s'écria Victurnien, l'argent est encore chez madame de Maufrigneuse. Ah! S'écria Chesnel. Eh bien, il y a quelque espoir bien faible. Pourrons-nous attendrir du Croisier, l'acheter? Il aura, s'il les veut, tous les biens de la maison. Je vais le réveiller, lui offrir tout. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui aurez fait le faux, ce sera moi. J'irai aux galères, j'ai passé l'âge des galères, on ne pourra que me mettre en prison. Mais j'ai écrit le corps du mandat, dit Victurnien, sans s'étonner de ce dévouement insensé. Imbécile! Pardon, monsieur le comte, il fallait le faire écrire par Joséphin, s'écria le vieux notaire enragé. C'est un bon garçon, il aurait eu tout sur le dos. C'est fini, le monde croule, reprit le vieillard affaissé qui s'assit. Du Croisier est un tigre, gardons-nous de le réveiller. Quelle heure est-il? Où est le mandat? Ah, à Paris, on le rachèterait chez les Keller, il s'y prêterait. Ah, c'est une affaire où tout est péril, une seule fausse démarche nous perd. En tout cas, il faut l'argent. Allons, personne ne vous sait ici. Vivez enterré dans la cave, s'il le faut. Moi, je vais à Paris, j'y cours, j'entends venir la malle-poste de Brest. En un moment, le vieillard retrouva les facultés de sa jeunesse, son agilité, sa vigueur. Il se fit un paquet de voyages, prit de l'argent, mit un pain de 6 livres dans la petite chambre et y enferma son enfant d'adoption. « Pas de bruit, lui dit-il. Restez là jusqu'à mon retour, sans lumière la nuit, ou sinon vous allez au bagne. M'entendez-vous, monsieur le comte? Oui, au bagne, si dans une ville comme la nôtre, quelqu'un vous savait là. » Puis Chesnel sortit de chez lui, après avoir ordonné à la gouvernante de le dire malade, de ne recevoir personne, de renvoyer tout le monde et de remettre toute espèce d'affaire à 3 jours. Il alla séduire le directeur de la poste, lui raconta un roman, car il eut le génie d'un romancier habile. Il obtint, au cas où il y aurait une place, d'être pris sans passeport. Et il se fit promettre le secret sur ce départ précipité. La malle arriva très heureusement vide. Débarqué le lendemain dans la nuit à Paris, le notaire se trouvait à 9 heures du matin chez les Keller. Il y apprit que le fatal mandat était retourné depuis 3 jours à Du Croisier, mais tout en prenant ses informations, il n'y avait rien dit de compromettant. Avant de quitter les banquiers, il leur demanda si, en rétablissant les fonds, ils pouvaient faire revenir cette pièce. François Keller répondit que la pièce appartenait à Du Croisier, qui seul était maître de la garder ou de la renvoyer. Le vieillard au désespoir alla chez la duchesse. À 7 heures, madame de Maufrigneuse ne recevait personne. Chesnel sentait le prix du temps. Il s'assit dans l'antichambre, écrivit quelques lignes et les fit parvenir à madame de Maufrigneuse, en séduisant, en fascinant, en intéressant, en commandant les domestiques les plus insolents, les plus inaccessibles du monde. Quoiqu'elle fût encore au lit, la duchesse, au grand étonnement de sa maison, reçut dans sa chambre le vieil homme en culotte noire, en bas drapé, en souliers agrafés. « Qu'y a-t-il, monsieur ? » dit-elle en se posant dans son désordre. « Que veut-il de moi, l'ingrat ?» « Il y a, madame la duchesse, s'écria le bonhomme, que vous avez 100 000 écus à nous. » « Oui, dit-elle, que signifie cette somme est le résultat d'un faux qui nous mène aux galères et que nous avons fait par amour pour vous, dit vivement Chesnel. Comment ne l'avez-vous pas deviné, vous qui êtes si spirituel? Au lieu de gronder le jeune homme, vous auriez dû le questionner et le sauver en l'arrêtant à propos. Maintenant, Dieu veuille que le malheur ne soit pas irréparable. Nous allons avoir besoin de tout votre crédit auprès du roi. » Au premier mot qui lui expliquèrent l'affaire, la duchesse honteuse de sa conduite, avec un amant si passionné, craignit d'être soupçonnée de complicité. Dans son désir de montrer qu'elle avait conservé l'argent sans y toucher, elle oublia toute convenance et ne compta pas d'ailleurs ce notaire pour un homme. Elle jeta son édredon par un mouvement violent, s'élança vers son secrétaire en passant devant le notaire comme un de ces anges qui traversent les vignettes de Lamartine et se remit confuse au lit après avoir tendu les 100 000 écus à Chesnel. « Vous êtes un ange, madame, » dit-il. Elle devait être un ange pour tout le monde. « Mais ce ne sera pas tout, » reprit le notaire. « Je compte sur votre appui pour nous sauver. » Vous sauvez. J'y réussirai ou je périrai. Il faut bien aimer pour ne pas reculer devant un crime. Pour quelle femme a-t-on fait pareille chose? Pauvre enfant. Allez, ne perdez pas de temps, cher monsieur Chesnel. Comptez sur moi comme sur vous-même. Madame la Duchesse, Madame la Duchesse. Le vieux notaire ne put rien dire que ces mots tant il était saisi. Il pleurait, il lui prit envie de danser, mais il eut peur de devenir fou, il se contint. À nous deux, nous le sauverons, dit-il en s'en allant. Chesnel alla voir aussitôt Joséphin, qui lui ouvrit le secrétaire et la table où étaient les papiers du jeune comte. Il y trouva très heureusement quelques lettres de Ducroisier et d'Ekeller qui pouvaient devenir utiles. Puis, il prit une place dans une diligence qui partait immédiatement. Il paya les postillons de manière à faire aller la lourde voiture aussi vite que la malle, car il rencontra deux voyageurs aussi pressés que lui et qui s'accordèrent pour faire leur repas en voiture. La route fut comme dévorée.